VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Nouvelle prorogation de la transition en République centrafricaine. Décision annoncée aujourd'hui par la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le décret en ce sens, signé par le leader gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de l'organisation, stipule dans son article 1, et je cite, « La transition politique en RCA est prolongée du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016. » L'article 2 précise, et je cite encore, « L'objectif principal de cette deuxième prorogation technique est de permettre aux autorités de la transition d'organiser des élections législatives et présidentielles crédibles et transparentes avant la fin du mois de mars 2016. » Fin de citation. La tournée du pape en Afrique maintenant. Le pape François doit prononcer cet après-midi un discours très attendu sur le climat à Nairobi au Kenya. Dans la matinée, il a appelé les Kenyans à défendre la famille lors d'une messe géante dans la capitale kenyane, après avoir mis les jeunes en garde contre l'extrémisme dans un pays régulièrement frappé par les attaques des islamistes radicaux comme les Shabab de la Somalie voisine. Le souverain pontife avait d'ailleurs lancé une mise en garde mercredi contre le désespoir et la pauvreté qui, selon lui, nourrissent le terrorisme et la violence. Plus de détails sur le message papal pendant cette tournée avec le président de la conférence des évêques de l'église catholique du Burundi, Mgr Gervais Banchimi Ubusa, contacté par Eric Manirakiza.
Le message qu'il a donné, c'est un message évangélique. Et l'évangile est toujours en train de parler de justice, de vérité, d'appel à la paix. Alors, dans la mesure où nous savons ouvrir nos cœurs comme chrétiens, en sachant que celui qui vient, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apôtre, nous pourrons certainement y trouver des possibilités d'aller de l'avant en améliorant ce qui doit l'être et en corrigeant même certaines choses qu'il faut corriger.
Mgr Gervais Banchimi Ubusa, Joan Ngozi, dans le nord du Burundi. En RDC, un député national récemment passé à l'opposition dénonce la forte militarisation de Lubumbashi dans la nouvelle province du Haut-Katanga. Des détails avec Eddy Isango.
Christian Mwando, membre du Parlement congolais, a accusé hier les autorités de chercher à faire taire toute voix dissidente à un an d'une présidentielle incertaine. Il a dénoncé au cours d'une conférence de presse les tracasseries et intimidations dont sont victimes les opposants à Lubumbashi et particulièrement ceux du G7, groupe des leaders passés à l'opposition après avoir mis en garde les présidents congolais Joseph Kabila contre la tentation de s'accrocher au pouvoir. Le député a relevé le fait que la présence militaire ait été nettement renforcé dans la ville depuis fin septembre, quand le riche gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a annoncé sa démission et son départ du parti de M. Kabila, jugeant que tout semblait mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution. Selon les députés, vous êtes systématiquement traqué si vous fréquentez M. Katumbi ou Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et un des chefs du G7. Le G7 voit dans les dialogues nationaux que M. Kabila a annoncé vouloir convoquer sous peu une manœuvre pour retarder la date de la présidentielle prévue avant la fin novembre 2015.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, c'est la dernière ligne droite vers les élections présidentielles et législatives prévues dimanche. À quelques jours de cette échéance cruciale, les organisations de la société civile se mobilisent pour que ce double scrutin prenne non seulement en compte les aspirations des populations, mais surtout se déroule dans un climat de transparence et d'acceptation par tous des résultats. Le MDBHP, une organisation de la société civile, s'est juré d'être les yeux et les oreilles du peuple burkinabé. On écoute son coordonnateur, Lansena Saint-Poré.
Nous avons opté de faire une observation qualitative. Toutes les 45 provinces sont couvertes et nous avons des gens qui seront fixés dans des bureaux de vote. Les observations sont tenues de suivre de bout en bout jusqu'à la proclamation des résultats et tout, tout, tout. Au niveau de chaque province, après les élections, chaque province va faire ses constats. Et le jour, là, nous avons demandé, le président l'a dit, on fera appel à vous pour donner notre point à chaud. Parce que dès donc la clôture des bureaux de vote, nous devrons recevoir à notre niveau tous les points au niveau donc des 45 provinces du pays.
Lansana Saint-Poré, coordonnateur du MDBHP, propos recueillis par notre correspondant au Burkina, Issa Napon. Au Mali, l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, qui a fait 21 morts la semaine dernière, pourrait aussi porter un coup dur à l'économie nationale déjà bien mal en point. Les risques sécuritaires pourraient en effet effrayer les investisseurs et les touristes. De Bamako, le reportage de notre envoyé spécial Émilie Yob, dont Michel Joseph nous donne les grandes lignes.
Les rues de Bamako ont retrouvé leur animation, mais c'est dans les livres de réservation de l'hôtel Radisson Blu que se ressent l'impact de l'attaque terroriste du 20 novembre, souligne Sidi Keïta, directeur adjoint de l'Office national malien du tourisme.
Nous n'avons pas perdu espoir. Nous savons que dans l'immédiat, il y a eu des annulations en cascade des hôtels et il y a eu véritablement beaucoup de manifestations publiques qui ont été par la suite annulées. Mais nous avons bon espoir.
En juin dernier, l'accord de paix signé par les séparatistes Touareg et le gouvernement malien a suscité chez les Maliens l'espoir d'une sortie du tunnel après 3 années de crise. Mais sa mise en œuvre s'avère difficile. Le pays reste par ailleurs en proie à divers groupes djihadistes qui commettent des actes de violence, comme ceux du Radisson Blu de Bamako. En ce qui concerne les touristes étrangers, il y a longtemps qu'ils ont déserté le Mali, regrette l'artisan Modibo Nimaga, dont le magasin est situé au marché touristique de Bamako.
Avant, c'est plus que 80, mais maintenant, on fait un mois, on ne voit même pas des blancs ici.
Moussa Ismaïla Touré, lui, dirige une agence chargée de la promotion du Mali auprès des investisseurs. Il se dit optimiste que l'attaque du 20 novembre n'affectera pas les investissements.
2014 a été particulièrement faible, où on est resté autour de 40 milliards. Mais 2015, ça s'annonce nettement meilleur, puisque déjà, on n'est pas loin de 100 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a eu une vraie reprise. Et bon, les événements actuels vont forcément ralentir un peu les choses, mais nous espérons que ça ne va pas tarder.
La croissance économique devrait ralentir à 4,9% en 2015, selon le FMI, en raison d'une production manufacturière affaiblie.
Nouveau casse-tête pour le président nigérian Muhammadu Buhari, déjà menacé par les insurgés islamistes de Boko Haram. Le Nigeria est maintenant confronté à une nouvelle poussée séparatiste dans le sud, notamment dans la région du delta du Niger, où des activistes réclament le contrôle des revenus pétroliers. Selon l'accord actuel, les revenus du pétrole sont divisés parmi les 36 États du Nigeria. Vendredi dernier, le lobby Mouvement d'autodétermination du Delta du Niger a contesté cette répartition, la qualifiant d'injuste. Le Sud-Est est déjà secoué depuis plusieurs semaines par une nouvelle série de manifestations revendiquant la création d'un nouvel État au Biafra, 45 ans après la fin d'une sanglante guerre civile déclenchée par une déclaration d'indépendance.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis, ici à Washington, sérieuse inquiétude des militaires américains après l'annonce par la Russie qu'elle allait déployer des missiles aériens dernier cri sur une de ses bases en Syrie. Le point avec Lionel Gaïma.
Moscou a annoncé envoyer ses systèmes S-400 sur la base de Latakia située dans l'ouest de la Syrie. Les missiles S-400 ont une portée de 400 km et représentent une menace éventuelle pour les avions de la coalition menée par les États-Unis. Celle-ci a effectué depuis plus d'un an environ 8000 frappes en Irak et en Syrie contre les djihadistes du groupe État islamique. La Russie bombarde également depuis plusieurs semaines le groupe État islamique ainsi que les opposants au régime de Bachar al-Assad en Syrie, mais dans des zones différentes de celles visées par la coalition. Moscou et Washington se sont mis d'accord sur un minimum de coopération afin d'éviter tout risque d'accident entre pilotes de deux pays, mais la perspective de voir des batteries de missiles anti-aériens déployées en Syrie n'est pas faite pour rassurer le Pentagone. Il s'agit d'un système d'armement performant qui représente une menace significative pour tout le monde, a regretté un responsable militaire américain sous couvert d'anonymat. L'annonce du déploiement des missiles S-400 intervient après que mardi, l'aviation turque a abattu un chasseur-bombardier russe le long de la frontière syrienne. Ankara affirme qu'il se trouvait dans l'espace aérien turc, tandis que Moscou assure à l'inverse qu'il a été abattu dans le ciel syrien.
Pour terminer, le président français François Hollande se rend aujourd'hui à Moscou pour tenter de rapprocher les positions russes et américaines sur la Syrie et la lutte contre le groupe État islamique. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et maintenant.